Le présent de l'empereur. Lorsque le roi des îles cannibales osa s'attaquer à la reine Victoria, et qu'un monarque européen lui adressa des compliments à l'occasion de cet exploit, l'indignation en Angleterre ne fut pas moindre que la surprise. Mais quand on apprit qu'un riche présent devait souligner ses félicitations, on trouva que les deux potentats, le nègre blanc et le nègre, avaient également perdu la raison. Ce cadeau était en effet une perle d'un prix inestimable, jadis arrachée par les Anglais à sa monture polynésienne et offerte par Sa Majesté britannique au souverain en question, lequel avait saisi l'occasion de le rendre à son premier possesseur. L'incident eût été une bonne fortune pour la presse s'il se fût produit à l'époque des vacances. Cependant, même au mois de juin, les journaux influents ne manquèrent pas de faire paraître des manchettes en gros caractères. Le Daily Chronicle consacra la moitié de l'espace occupé d'habitude par la littérature à un dessin charmant qui représentait le chef-lieu de l'île. Une autre feuille, le Pall Mall, proposait dans son article de fond de réduire en cendres cette même capitale. Je vivais alors modestement mais honnêtement de ma plume, et cette actualité m'inspira des vers satiriques qui obtinrent un succès plus grand que toutes mes œuvres antérieures. J'avais sous-loué mon appartement de Londres et je m'étais logé économiquement à Ditton, sur la Tamise, prétextant une passion pour la rivière. Et Raffles était venu m'y dénicher. « C'est superbe, mon vieux, me dit-il, allongé dans un bateau sur lequel je ramais. Je pense que cela vous rapporte gros. Oh, pas un sou. En vérité, mais je croyais que c'était si bien payé. Non, il faut que je me contente de l'honneur d'être imprimé. L'éditeur me l'a formellement déclaré, ajoutai-je. Vous ne voulez pas dire que vous lui avez déjà écrit pour réclamer le paiement de vos articles ? C'était la dernière chose que j'eusse voulu avouer, mais en réalité, je l'avais fait. Le mot était lâché, inutile de dissimuler plus longtemps. Oui, j'avais écrit pour réclamer de l'argent, car réellement j'en avais grand besoin, et pour parler franc, j'étais presque à sec. Ralph me fit un signe qui signifiait qu'il le savait déjà. Je m'échauffais au souvenir de mes chagrins. Ce n'était pas chose facile d'arriver à faire son chemin dans le monde des lettres. Et je craignais, pour ma part, de ne savoir écrire ni assez bien ni assez mal pour forcer le succès. Je m'efforçais en vain de faire du style. J'arrivais à faire des vers, mais cela n'était pas payé, et je ne voulais ni ne pouvais m'abaisser à faire de vulgaires articles de journal. Raffles sourit. Oh, je sentais bien qu'il pensait aux autres besognes auxquelles je m'étais abaissé. Je croyais deviner ce qu'il allait dire, car il l'avait si souvent répété que j'étais convaincu qu'il allait encore le faire. Ma réponse était toute prête, mais il était sans doute fatigué de poser la même question. Il baissa les yeux et ramassa le journal qu'il avait laissé tomber, et je continuai à ramer pendant toute la longueur du mur de Hampton Court avant qu'il reprît la parole. « Et ils ne vous ont rien donné pour cette poésie, mon cher Benny. Mais elle est pourtant merveilleuse, non seulement au point de vue de la versification, mais encore à cause de la netteté des idées que vous avez su enfermer comme dans une coquille de noix. Certainement, vous n'avez plus appris sur ce sujet que je n'en savais auparavant. Voyons, vaut-elle réellement 50 000 livres sterling, cette perle unique ? 100 000, je crois, mais... cela eût fait boiter mon verre. « 100 000 livres !» s'écria Ralph, les yeux toujours fermés. Oh, je soupçonnais bien ce qui allait suivre. Cette fois encore, je me trompais. « Si elle a cette valeur, dit-il enfin, il n'y aurait pas moyen de s'en défaire. C'est pas comme un diamant qu'on peut diviser. Ben, je vous demande pardon, Bunny, j'oubliais. » Et nous ne parlâmes plus du cadeau de l'empereur, car l'orgueil subsistait en moi malgré tout, malgré mon goût savide et aucune privation, je me décidai à faire moi-même la proposition attendue de la part de Raffles, avec un certain espoir que, maintenant je le confesse, nous ne parlâmes pas davantage de ce que Raffles disait avoir oublié mon apostasie, ma chute dans la vérité, ainsi qu'il l'aimait à l'appeler. Nous restâmes silencieux, quelque peu gênés, suivant chacun le fil de nos pensées. Il y avait des mois que nous ne nous étions pas rencontrés, et en le reconduisant vers 11 heures ce dimanche soir, je pensais que c'était pour des mois que nous nous disions adieu. Mais pendant que nous attendions le train, je sentis son regard perçant m'examiner à la lueur des lampes de la gare, et quand il se croisa avec le mien, Raffles secoua la tête. Vous n'avez pas bonne mine, Bunny, dit-il. Je n'ai jamais eu confiance dans la valise de la Tamise. Vous avez besoin d'un changement d'air. Oh, je le désire bien vivement. Ce qu'il vous faudrait, ce serait un voyage en mer, et l'hiver à Saint-Maurice, mais vous me recommanderiez plutôt Cannes ou la Caire, n'est-ce pas? Tout cela est très joli. Vous oubliez seulement ce que je vous ai dit quant à l'état de mes finances. Oh, j'oublie rien, mais je ne veux pas froisser vos sentiments. Écoutez-moi, cependant, vous l'aurez, votre voyage en mer. J'ai besoin, moi aussi, de changer d'air. Vous viendrez avec moi comme invité. Nous passerons juillet sur les bords de la Méditerranée. Mais c'est la saison du cricket. Oh, diable, cricket! Si je croyais que vous parlez sérieusement. Mais je parle très sérieusement. Voulez-vous venir? Oh, certes, bien volontiers, si vous y allez. Il me serra la main, je lui adressai un signe d'adieu avec la conviction intime que je n'entendrai plus parler de cette proposition. C'était de sa part une pensée en l'air, rien de plus. Mais bientôt, je ne tardais pas à désirer qu'elle se réalisât. Et durant toute la semaine, je me pris à vouloir quitter l'Angleterre pour toujours. Je ne faisais rien et ne vivais que de la différence entre le loyer que je payais et celui de mon appartement de Londres que j'avais sous-loué, tout meublé pour la saison. Or, la saison tirait à sa fin et mes créanciers m'attendaient à Londres. Pouvais-je rester tout à fait honnête? Tant que j'avais eu de l'argent en poche, je payais comptant, et le fait de voler pour payer me paraissait encore moins ignoble que de faire des dupes. Je n'entendais plus parler de Raffles. Une semaine était déjà passée, une autre était à moitié terminée. Enfin, dans la soirée du second mercredi, en rentrant chez moi, après l'avoir cherché inutilement en ville et dîné solitairement au club auquel j'avais continué d'appartenir, je trouvai chez moi le télégramme suivant. Partez de Gare Waterloo par train spécial North German Lloyd à 0h25 lundi prochain. Me trouverez Southampton à bord Hullen avec billet. Je vous écris. Et il m'écrivit en effet une lettre très gaie, mais remplie d'une sollicitude empressée pour ma santé, mon avenir. Une lettre presque touchante, si l'on songe à ce que furent nos relations et à ce qu'elles étaient actuellement. Il me disait qu'il avait deux cabines pour Naples et que nous irions jusqu'à Capri, qui était vraiment l'île des lotophages, et que là, nous nous reposerions dans les douceurs de l'oubli. Je ne connaissais pas l'Italie, ajoutait-il, et il se ferait une joie de m'initier. Il n'y avait pas d'erreur plus grossière que de croire que c'était un pays impossible pendant l'été. La baie de Naples n'était jamais si divine, et il me parlait de la solitude de ce pays de fées, comme si sa plume était devenue inconsciemment poétique. Pour revenir sur la terre prosaïque, il m'ajoutait que ce n'était peut-être pas patriotique de choisir un navire allemand, mais que sur les autres lignes, on n'était pas l'objet des mêmes attentions et qu'on ne savait même pas le même confort pour le même prix. Il faisait allusion à de meilleures raisons. La lettre et le télégramme de Raffles avaient été expédiés de Brême. Et je pensais que, grâce à la protection et à l'influence de la compagnie, il avait pu obtenir une réduction sur le prix de nos places. Imaginez mon agitation et ma joie. Je m'arrangeais pour payer ce que je devais à 10 tonnes sur la Tamise. J'ai réussi à tirer un petit chèque d'un éditeur qui me devait quelque argent, et j'arrachais encore un costume de flanelle à mon tailleur. Je me rappelle que je changeais mon dernier souverain pour acheter une boîte de cigarettes Sullivan pour Raffles afin de lui donner à fumer pendant le voyage. Mon cœur était aussi léger que ma bourse lorsque le lundi matin, par une des plus belles matinées de cet été pluvieux, le train spécial me transporta vers la mer à travers la campagne ensoleillée. Le vapeur qui faisait le service du paquebot nous attendait à Southampton. Raffles n'était pas à bord, et je le cherchais même avant d'avoir accosté le navire de la compagnie. Je me mis d'abord à sa recherche, mais en vain. Sa figure ne se trouvait pas parmi celles qui se penchaient le long du bastingage. Sa main ne s'agitait pas avec celle qui échangeait des signaux avec des amis. Je grimpais à bord, ayant un poids sur le cœur. Je n'avais pas d'argent pour acheter le billet et je ne savais même pas le numéro de ma cabine. Une angoisse m'étreignit quand j'arrêtais à Stewart pour lui demander s'il y avait à bord un monsieur Raffles. Dieu merci, il y était. Mais où? Ah, le steward l'ignorait et n'avait pas le temps de me renseigner. Je dus donc me mettre moi-même à la recherche de Raffles. Celui-ci n'était pas sur le pont des Premières, ni dans le salon. Le fumoir était vide et je n'y trouvais qu'un petit Allemand à la moustache cirée d'un brou rouge qui lui remontait jusqu'aux yeux. Ralph n'était pas non plus dans sa cabine, où cependant la vue de son nom sur ses bagages me rassura entièrement. Et pourquoi se cachait-il? Impossible de l'imaginer. Malgré la défense affichée, j'étais monté sur la passerelle comme dernière ressource, et c'était là que Raffles s'était assis au-dessous d'un hublot, penché sur une chaise longue destinée aux officiers, sur laquelle se trouvait allongé, vêtu d'une jupe et d'une jaquette en piqué blanc, une jeune fille mince, au teint mat, aux cheveux bruns, aux yeux superbes. Je remarquais tout cela pendant qu'il se relevait vivement, et je restais surpris de l'expression rapide qui précéda un mouvement d'étonnement bien joué. Eh bien, m'écriai-je, vous voilà, mais je vous ai cherché partout dans tout le paquebot. « Comment, c'est-vous banni? Mais d'où tombez-vous ? » répondit Raffles. Je murmurais quelque chose pendant qu'il me pinçait la main. « Ah, vous faites la traversée sur ce navire, vous allez aussi à Naples, bravo !»« Miss Werner, permettez-moi de vous le présenter. » Et sans broncher, il me présenta comme un vieux camarade d'école qu'il n'avait pas vu depuis des mois, avec des détails inutiles sur lesquels il insistait et qui me remplissaient de confusion, de soupçons et de révolte. Je rougissais pour nous deux, mais cela m'était égal. Ma présence d'esprit m'avait totalement abandonné et je ne fis aucun effort pour la rattraper et me mettre à la hauteur des circonstances. Je me bornai à murmurer avec la plus mauvaise grâce les paroles que Raffles me mit dans la bouche. « Oh, si donc vous avez vu mon nom sur la liste des passagers et vous êtes venu à ma recherche. Oh, ce bon vieux Bunny. Bon, je serais très heureux si vous pouviez partager ma cabine. J'en ai une fort belle sur le pont supérieur. mais on a pu me promettre de m'y laisser seul. Nous ferons bien de voir cela avant qu'on y mette un étranger. En tout cas, il nous faut partir d'ici. » Un quartier maître était entré dans le roof du gouvernail, et pendant que nous parlions, un pilote avait pris possession de la passerelle. Tandis que nous descendions, le vapeur de service s'éloignait au milieu des mouchoirs qui s'agitaient et des adieux que nous entendions retentir. La traversée commençait. Elle ne commença pas agréablement entre Raffles et moi. Sur la passerelle, il avait réussi à subjuguer ma perplexité par un flux de paroles et une joyeuse bonne humeur, mais dans la cabine, il se démasqua. « Idiot !» grommela-t-il, « mais vous m'avez encore trahi !»« Mais comment cela ?» Le premier imbécile venu aurait compris que je voulais qu'on crût que vous ne me rencontriez par hasard. Après avoir pris vous-même nos deux billets, ils n'en savent rien à bord, et puis je n'avais pas de plan quand j'ai pris les billets. Ben alors vous auriez dû me prévenir après l'avoir combiné. Vous construisez des plans et vous n'en soufflez jamais mot. Vous supposez que je puis les deviner par l'opération du Saint-Esprit. Mais comment aurais-je soupçonné que vous aviez quelque chose en vue ? J'avais retourné la question avec succès. Ralph baissa presque la tête. « Oh, le fait est, Buddy, oui, que je ne voulais rien vous dire. Vous êtes un diable devenu ermite en vieillissant. » Le ton de sa voix, ce petit mot affectueux et d'autres choses peut-être, m'adoucirent aussitôt, mais j'avais encore beaucoup à lui pardonner. « Mais si vous aviez peur de m'écrire, continuai-je, vous n'aviez qu'à me donner le mot d'une façon quelconque dès que j'ai mis pied à bord. J'aurais pris la chose du bon côté. Je ne suis pas devenu si vertueux que cela. Était-ce mon imagination ? Ralph me parut presque quelque peu honteux. S'il le fut ainsi, ce fut bien la première et aussi la dernière fois de toutes les années pendant lesquelles je le connus. Mais même maintenant, je ne pourrais l'affirmer. « Oh, mais c'était bien, dit-il, ce que j'avais l'intention de faire, vous attendre dans ma cabine et vous arrêter au passage, mais... » Vous étiez donc occupé plus agréablement. Dites plutôt autrement. Avec la charmante Miss Werner. Elle est en effet charmante. Comme la plupart des jeunes filles d'Australie. Mais comment avez-vous su quel était ce pays? Je l'ai entendu parler. Quel don d'observation, dit Raffles en riant. Elle n'a pas plus d'accent que vous. Non, sa famille est allemande, elle était en pension à Dresde et elle retourne seule dans son pays. Elle est riche, que le diable vous emporte. Bien que Raffles se fût mis à rire, je pensais qu'il valait mieux changer de sujet. En tout cas, repris-je, ce ne sera point à cause de Bill Werner que nous devrons paraître étrangers l'un à l'autre, n'est-ce pas ? Vous avez, je suppose, un projet plus grave en tête. Oui, peut-être. Ne vaudrait-il pas mieux me le confier ? Raffles me regarda avec son regard perçant et prudent que je connaissais si bien, et cette vieille habitude, après, me fit sourire d'une façon qui pouvait me rassurer, car déjà je devinais vaguement. Vous ne vous sauverez pas dans le bateau du pilote, Bunny. Oh, pas du tout. « Très bien, alors écoutez. Vous rappelez-vous la perle sur laquelle vous avez écrit ces... » Je n'attendis pas la fin de la phrase. « Vous l'avez ? » m'écriai-je. Et j'aperçus ma figure en feu dans le miroir de la cabine. Ralph parut abasourdi. « Non, pas encore, mais j'espère bien l'avoir avant d'arriver à Naples. » Elle est à bord ? Oui. Mais comment, où, qui la porte ? Un petit officier allemand, un poseur avec des moustaches en croc. Ah oui, je l'ai vu dans le fumoir. Oh, c'est bien lui, il y est toujours. Herr Captain Wilhelm van Herman, si vous regardez la liste des passagers. C'est l'envoyé spécial de l'empereur, il porte la perle sur lui. C'est à Brême que vous avez appris cela? Non, à Berlin, d'un journaliste que je connais. J'ai honte de vous l'avouer, mais je suis allé là-bas exprès. J'éclatais de rire. Oh, vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Vous êtes en train d'accomplir la chose que j'espérais vous voir me proposer l'autre jour sur la Tamise. Vous l'espériez? Dit Raffles, les yeux grands ouverts. C'était à son tour d'être surpris, et au mien de montrer plus de honte que je n'en éprouvais. Oui, répondis-je, cette idée me souriait, mais je n'allais pas vous la proposer. Mais pourtant, vous m'auriez écouté l'autre jour. Certainement, je l'aurais écouté, je le lui dis sans réserve, quoique sans effronterie. Non pas avec un brio d'un homme qui savoure ces sortes d'aventures pour elle-même, mais d'un air bourru, provocateur entre les dents, comme un homme qui avait eu la volonté de vivre honnête, n'avait pas pu y réussir. Avec éloquence, sans nul doute, j'ose le dire, je lui fis connaître les étapes successives de ma lutte désespérée et de ma défaite inévitable. Car l'une était désespérée, l'autre inévitable, en effet, pour un homme qui avait derrière lui un passé comme le mien, bien que ce passé ne fût connu que de ma conscience. C'était tout simplement la vieille histoire du voleur voulant redevenir honnête, le combat contre sa nature. Raffles ne partageait pas mon avis et mes idées conventionnelles lui firent secouer la tête. Il trouvait que la nature humaine est comme un échiquier. Pourquoi ne pas se faire à l'idée de faire alterner les cases noires et les cases blanches? Pourquoi désirer être tout l'un ou tout l'autre, comme nos ancêtres dépeints dans les vieux romans de jadis? Quant à lui, toutes les cases de l'échiquier lui plaisaient également, et l'ombre faisait ressortir la lumière. Ma conclusion lui semblait absurde. Benny, vous vous perdez tout au moins en la bonne compagnie de tous les moralistes de 4 sous qui prêchent toujours la même antienne. Je parie que je sortirai moi aussi de l'averne le jour où je voudrai, tôt ou tard, et pour de bon. Je ne puis à moi seul former une compagnie à risque limité, mais je puis prendre ma retraite, m'installer et vivre enfin pour toujours en honnête homme. Et peut-être grâce à la perle pourrais-je arriver. Mais vous ne pensez donc plus qu'elle est trop grosse pour qu'on puisse la vendre sans danger? Bon, nous pourrons acheter une pêcherie et la trouver avec du menu fretin. Elle nous arrivera après des mois de guigne, juste au moment où nous songerons à rendre le bateau. Pardieu, on en parlera tout le Pacifique. Mais il s'agit de la prendre. Est-ce que M. Van Herman est un féroce gaillard? Plus qu'il ne paraît, il a tout peine en fer. Et tandis qu'il parlait, une jupe en toile blanche passa devant la porte ouverte de notre cabine, et j'aperçus un peu plus loin une moustache en croc. Est-ce à lui que nous aurons affaire? La perle n'a-t-elle pas été confiée à l'agent comptable? Raffles se tint debout à la porte, regardant d'un air furieux le passage du Solent. Puis, un instant, il se tourna vers moi en reprenant haleine. Mon bon ami, croyez-vous que tout le personnel du navire soupçonne qu'il y a un pareil joyau à bord? Vous avez dit qu'elle valait 100 000 livres. À Berlin, on affirme qu'elle n'a pas de prix. Je doute que le capitaine du navire lui-même sache que Van Herman l'a sur lui. Et il l'a, ou doit l'avoir. Alors, occupons-nous exclusivement de lui. Il me répondit d'un coup d'œil. Quelque chose de blanc passa de nouveau, et Raffles sortit et nous reprîmes la promenade, mais à trois. Il serait difficile de se trouver à bord d'un plus beau navire que le Yulan de la Nordulcher Lloyd, ni de rencontrer un gentleman plus sympathique que son commandant et de plus aimable garçon que ses officiers. Je me plais à le reconnaître, mais toutefois, le voyage ne me plaisait guère. Ce n'était ni la faute du personnel, du bord, ni celle du temps monotone à force d'être splendide. Ce n'était même pas dans mon cœur que j'en trouvais la raison. La conscience et moi étions enfin divorcés. La rupture était bien définitive. Avec mes scrupules, toutes mes craintes s'étaient envolées, et je me sentais prêt à me réjouir du beau temps et du miroitement merveilleux de la mer, avec la même légèreté d'esprit que Raffles. Oui, mais c'était de Ralph que provenaient mes ennuis, mais non pas de lui seul. De lui et aussi de cette Péronnelle qui s'en retournait aux colonies après avoir terminé ses études. Mais que pouvait-il trouver en elle? Voilà la question. Il ne la trouvait pas mieux que je ne le faisais moi-même, mais ce fut pour m'ennuyer et peut-être aussi pour me punir de ma longue défection qu'il me tourna le dos et se consacra, durant la traversée de Southampton à la Méditerranée, à cette gamine. Il ne se quittait pas, c'en était absurde. Après déjeuner, ils commençaient leur flirt et il y en avait pour jusqu'à 11 heures ou minuit. Il n'y avait pas d'instant où l'on entendît son rire nasal à elle et la voix douce et tranquille de Raffles qui lui murmurait mille riens à l'oreille. Ce devait être des bêtises. Mais était-ce convenable que Raffles, avec sa connaissance du monde et son expérience des femmes, oui, je n'ai jamais parlé de ce côté de son caractère qui mériterait un volume à part, était-il convenable qu'un homme comme lui passât des journées entières à ne dire autre chose que des bêtises à une sotte petite pensionnaire? Je ne voudrais pour rien au monde être injuste, j'ai déclaré, et je crois que la jeune personne pouvait avoir quelques attraits. Ses yeux, je le reconnais, étaient réellement beaux, et certainement l'ovale de sa figure au teint mat était absolument charmant. J'admets aussi qu'elle avait plus d'aplomb que je n'eusse aimé, une santé parfaite, une fougue et une vitalité remarquables. Il est vraisemblable que je n'aurai à rapporter aucune ici de ces conversations. Elle n'en vaudra du reste pas la peine. C'est pourquoi je tiens à la décrire sans injustice. J'avais, je l'avoue, quelques préventions contre elle. Son succès auprès de Laffe m'agaçait. Je la voyais du reste de moins en moins chaque jour. C'est pénible de l'avouer, mais je ressentais comme un vague sentiment de jalousie qui s'envenimait dans mon cœur. Oh, je n'étais pas seul à éprouver ce sentiment. Il y avait un autre jaloux, aigre, rampant, sans aucune dignité. Le capitaine Fannerman tournait ses moustaches en deux pointes jumelles, ramenait ses manchettes sur ses bagues et me dévisageait insolemment à travers son binocle. Nous eussions dû nous consoler réciproquement, mais jamais au contraire nous n'échangeâmes une syllabe. Le capitaine avait une large balafre sur les joues, souvenir de son temps d'étudiant à Heidelberg. Bien souvent, je pensais à part moi, comme il serait heureux d'en faire une semblable à Raffles. Ce n'était pas que Fannerman n'eût jamais son tour près de la jeune fille. Raffles lui laissait le champ libre plusieurs fois par jour, tout simplement pour avoir le plaisir de lui bouler ses barres quand il croyait les avoir placées d'aplomb. Telles furent du moins ses paroles un jour où je lui faisais remarquer que sa conduite était des moins correctes envers cet Allemand sur un navire de la même nationalité. Mais vous vous ferez détester à bord. Par Fannerman seulement. Mais trouvez-vous cela habile, étant donné que c'est à lui que nous avons affaire? Mais c'est tout ce qu'il y a de plus habile. Si j'en avais fait mon ami, c'eût été la plus grosse faute, c'eût été le truc classique. Cette confidence me consola, m'encouragea et me rendit presque content. Je craignais que Raffles n'ait négligé nos affaires, je le lui dis très carrément. Nous étions alors près de Gibraltar. Il ne m'en avait jamais reparlé depuis le Solent. Il secoua la tête et sourit. Patience, Benny, patience. Bien, rien à faire avant Gênes, et nous n'y serons que dimanche soir. La traversée n'est qu'à son commencement, et nous en sommes au même point. Sachons profiter de ces bons moments pendant que nous pouvons. Cela se passait un soir après dîner sur le pont, et tout en parlant, Ralph jeta un coup d'œil à droite et à gauche, et s'éloigna un instant après d'un pas délibéré. Je rentrais dans le fumoir, lire et fumer dans un coin, tout en regardant Fannerman, qui n'avait pas tardé à me rejoindre et à se mettre à boire de la bière et à bouder dans un autre coin. Peu de voyageurs se risquent à faire la traversée de la mer Rouge en plein été. Le Yulan était presque vide, mais comme il n'avait que peu de cabines sur le pont, cela avait été le seul prétexte qui m'avait permis de partager celle de Raffles. J'aurais pu, il est vrai, en avoir une pour moi seul à l'entrepont, mais je tenais à être en haut et Raffles m'avait fait insister sur ce point. Nous avions donc pu, sans éveiller de soupçons, je pense, nous mettre ensemble, bien que je n'en visse pas l'utilité. L'après-midi du dimanche, j'étais encore endormi sur la couchette inférieure de la cabine, quand Raffles, assis en bras de chemise sur le pouf, se mit à secouer les rideaux. Achille s'est retiré sous sa tente. Mais que voulez-vous donc que je fasse? M'écriai-je tout en bâillant et en m'étirant. Je remarquai cependant la bonne humeur de sa voix et je fis de mon mieux pour l'imiter. J'ai trouvé quelque chose de mieux, Benny. Oh, je n'en doute pas. Mais vous ne saisissez pas, Benny. Notre jeune homme fait la roue près d'elle cet après-midi. J'ai d'autres chars fouettés maintenant. J'allongeai les jambes bord des bords de la couchette et une fois assis, je me penchais attentif. La porte à claire-voie était fermée au verrou, le rideau baissé. Nous serons à Genève avant le coucher du soleil, continua Ralph. C'est là qu'il faut faire le coup. Ah, vous êtes toujours dans les mêmes idées. Vous ai-je jamais dit le contraire? Vous avez si peu parlé depuis quelque temps. Que j'ai bien fait, mon cher Benny. Pourquoi donc gâter le plaisir d'un voyage en causant commerce? Ah, mais le moment est venu. C'est à Gênes qu'il faut marcher ou pas du tout. À terre? Non, non, à bord, demain dans la nuit. Oh, ce serait possible cette nuit-ci, mais demain vaut mieux en cas d'accroc. Si nous nous trouvions obligés d'user de violence, nous pourrions fuir par le premier train, et on ne saurait rien jusqu'à ce que le navire eût levé l'ancre et qu'on eût trouvé Van Herman mort ou drogué. Oh, pas mort, m'écriai-je. Bien entendu, assura Ralph. S'il n'était pas mort, nous ne serions pas obligés de nous sauver. Mais si le malheur y forçait, mardi matin serait le moment favorable, car le bateau sera obligé de lever l'ancre, quoi qu'il arrivât. Non, non, je ne compte pas user de violence, car c'est l'indice d'une infériorité absolue. Depuis que nous nous connaissons, combien m'avez-vous vu donner de coups? Pas un, je crois, bien que je sois tout prêt à tuer si la casse arrivait. Je lui demandai comment il comptait entrer dans la cabine de M. Fannerman sans être vu, et dans l'obscurité, sa figure rayonna. Mais grimpez sur ma couchette, Benny, et vous verrez. Je fis comme il me le disait, mais je ne remarquai rien. Raffles frappa contre le ventilateur qui formait dans le mur au-dessus de son lit une sorte de trappe d'environ 18 pouces de long sur 9 de haut. La porte de cette trappe s'ouvrait en dehors dans le manchon du ventilateur. Et voilà, dit-il, notre porte vers la fortune. Ouvrez-la si vous voulez, mais vous n'y verrez pas grand-chose, car elles s'entremaillent seulement. Mais en soulevant deux vis, cela ira tout seul. On ne peut voir le fond du manchon. Vous passez dessus quand vous allez au bain, et au-dessous se trouve un hublot qui donne sur la passerelle. Voilà pourquoi il faut opérer quand nous serons à Gênes, car il n'y aura pas, tant que nous serons dans le port, de timonier sur la passerelle. Le ventilateur en face du nôtre donne sur la cabine de Van der Man. Il n'y aura qu'à enlever deux vis, et il y a même une planche pour nous soutenir pendant la durée de notre travail. Mais si quelqu'un venait à nous voir d'en bas, il est absolument improbable qu'il se trouve une personne éveillée à ce moment. En tout cas, c'est si peu probable que nous pouvons encourir le risque. Je ne veux même pas que vous fassiez le guet pour vous en assurer. La grosse question est que personne ne nous voit après que nous aurons regagné nos cabines pour la nuit. Deux ou trois bousses sont placées en sentinelle sur le pont. Ils pourront témoigner au besoin que nous n'avons pas quitté nos cabines. Pardieu, mais jamais acte n'aurait été plus mystérieusement accompli. Et si Van Herman ne résiste pas? Résister, ça lui sera bien impossible. Il boit beaucoup trop de bière pour avoir le sommeil léger. Et rien n'est plus facile que de chloroformer un homme profondément endormi. Vous l'avez expérimenté vous-même dans une circonstance qui n'est peut-être pas opportun de vous rappeler. Vous n'aurez pas plutôt passé les mains par le ventilateur que Van Herman sera absolument insensible et je ramperai par-dessus son corps. Voilà, mon vieux Benny. Et moi? Vous me passerez ce dont j'aurai besoin et vous tiendrez fermé la porte de la cabine en cas d'accident. De plus, vous me donnerez le soutien moral auquel vous m'avez habitué. C'est du luxe, Benny, mais depuis que vous m'aviez lâché, je m'apercevais combien cela me manquait. Il ajouta que Van Herman fermerait sa porte au verrou avant de se coucher, puis il me parla des procédés qu'il emploierait afin de créer une fausse piste en fouillant la cabine. Raffles supposait que ses recherches ne seraient pas longues, la perle devant se trouver sur la personne même de Van Herman. D'ailleurs, il savait exactement où et de quelle manière il la gardait. Naturellement, je lui demandais comment il l'avait su. Et sa réponse me causa un moment d'ennui. « C'est une vieille histoire, Benny. J'ai oublié dans quel chapitre de la Bible elle se trouve. Oh, je suis seulement sûr que c'est dans l'Ancien Testament. » Samson en fut le héros malheureux, et une certaine Dalila, l'héroïne. À son air, je ne doutais pas un instant du sous-entendu. Ah, c'est donc la belle Australienne qui a joué le rôle de Dalila, m'écriai-je. Bon, bien dit cela, innocemment, certes. Elle lui a arraché le secret de sa mission. Oui, je l'ai fait contraindre à donner tous les détails possibles. Il comptait frapper un grand coup sur l'imagination de la jeune fille, et c'est ce que j'espérais. Il a même montré la perle à Annie. Annie, hein? Et elle s'est empressée de vous le dire? Au point du tout, qu'est-ce qui vous le fait croire? Au contraire, j'ai eu infiniment de joie à le lui faire avouer. Le ton de sa voix, le froncement de ses sourcils auraient dû être pour moi un avertissement suffisant, mais je n'eus pas l'intelligence de les saisir. Voilà donc quel était le but de ce flirt enragé. Sans mot dire, je le menaçais du doigt. « Tartuffe ! » m'écriai-je, « mais je comprends tout maintenant. Que j'ai donc été stupide. Êtes-vous sûr de ne plus l'être ? Oh non, je ne le suis plus. Je comprends ce qui m'a si fort étonné toute la semaine. » Je ne pouvais imaginer le charme que vous trouviez dans la société de cette gamine. Je n'aurais jamais supposé qu'il s'agissait de l'affaire. Ah, vous pensez donc maintenant que ce n'était que cela? Bien sûr, jeune scélérat. Vous ne saviez pas qu'elle est la fille d'un très riche colon? Il y a des femmes Riche par douzaine, qui vous épouserait demain. Mais il ne vous est jamais venu à l'idée que je pourrais fermer boutique, devenir un gentleman correct et vivre heureux pour toujours dans la brousse? Avec cette voix-là, certainement non. Denis, cria-t-il d'un ton si furieux que je m'attendis à recevoir un coup, vous croyez que vous vivrez heureux? Eus-je l'audace de lui demander. Dieu seul le sait, répondit-il. Sur ces mots, il partit, me laissant en proie à la stupéfaction dans laquelle m'avait plongé son regard et le ton de sa voix, et plus que tout, la cause qui avait provoqué en lui cette explosion passionnée. De tous les vols que j'avais vu Raffles accomplir dans sa profession, le plus délicat, en même temps que le plus difficile, fut sans nul doute celui qu'il exécuta le mardi entre 1 h et 2 h du matin à bord du paquebot le Uhlan de la compagnie Norddeutscher Lloyd qui se trouvait à l'ancre en rade de Gênes. Il n'y eut pas le moindre accroc. Tout avait été prévu et tout se passa ainsi qu'il l'avait prédit. Personne ne se trouva en bas du ventilateur. Les mousses étaient sur le pont, la passerelle était déserte. Ma montre marquait 1 h 25 du matin quand Raffles, nu comme un ver, un minuscule tournevis derrière l'oreille et tenant entre ses mains un flacon de cristal bouché avec de la ouate, s'engagea, les pieds en avant, dans le ventilateur qui se trouvait au-dessus de son lit. À 2 h moins 10, 9 minutes, il reparut, la tête la première, tenant entre ses dents le flacon dans lequel il avait enfoncé la ouate pour empêcher le bruit qu'aurait pu faire un objet de la taille d'une fève grise qui se trouvait à l'intérieur. Il avait retiré les vis, les avait replacées, avait ouvert le ventilateur au-dessus du Fannerman et l'avait remis dans l'état où il l'avait trouvé, c'est-à-dire aussi hermétiquement clos que le sien le fut quelques instants après. Quant à Fannerman, Ralph n'avait eu qu'à placer la ouate imbibée d'abord sur sa moustache, puis contre ses lèvres entrouvertes, et il avait pu se glisser à 2 reprises différentes par-dessus son corps sans que l'autre fît un mouvement. Et voici quel en était le prix. Une perle grosse comme une noisette, avec une légère teinte rosée comme l'ongle d'une jolie femme. Butin qui datait du temps des corsaires, cadeau d'un empereur d'Europe à un chef des mers du Sud. Quand tout fut remis en ordre, nous la contemplâmes avec une joie infinie. Nous bûmes en son honneur du whisky et du soda dont nous nous étions munis la veille au soir en vue du grand moment. Mais ce moment était plus splendide, plus triomphant que jamais nos rêves n'avaient pu l'imaginer. Tout ce que nous avions à faire, c'était de bien cacher cette pierre précieuse que Raffles avait eu soin d'enlever de sa monture après avoir remis cette dernière à sa place, de manière à détourner les recherches les plus minutieuses et à nous permettre de l'emporter avec nous à Naples. C'est ce que Raffles fit tandis que je me couchais. Mon avis était de débarquer cette nuit-là à Gênes et de filer avec notre prise. Non, il ne voulut pas en entendre parler et me servit une quantité de bonnes raisons qui l'en empêchaient. Somme toute, rien ne fut, je crois, découvert ni soupçonné avant que le navire eût levé l'ancre. Mais encore, je n'en suis pas entièrement sûr. Il est difficile de croire qu'un homme ait pu être chloroformé pendant son sommeil sans avoir ressenti des effets et sans qu'il en ait reconnu l'odeur le lendemain matin. Cependant, Van Herman se fit voir comme si rien n'était arrivé, sa casquette allemande sur les yeux, ses moustaches toujours en croc. À 10 h, nous levions l'ancre, le dernier agent officiel, maigre et rasé, avait abandonné le pont, le dernier vendeur de pastèques avait été chassé à coups de seau d'eau, nous avait maudit de son bateau, lorsqu'un dernier passager était monté à bord à la dernière minute. C'était un homme à barbe grise, très démonstratif, qui retarda le départ du paquebot en discutant avec son batelier à propos d'une demi-lire. Enfin, nous partîmes. Le remorqueur nous quitta, nous dépassâmes le phare. Raffles et moi, penchés sur les bastingages, regardions nos ombres courir sur l'eau vert pâle veinée de la mer qui lavait les flancs du navire. Fannerman avait le champ libre près de la fillette. Il était convenu entre nous qu'on le laisserait avec elle toute la journée, afin de retarder l'heure inévitable de la découverte. Cependant, celle-ci paraissait fort ennuyée et lançait sans cesse des regards de notre côté, tandis que Bill semblait très heureux de profiter d'une si belle occasion. Raffles était morose et mal à l'aise. Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait de remporter un si beau succès. Je ne pus que penser que la séparation prochaine à Naples lui pesait sur le cœur. Il ne voulait ni me parler, ni me laisser m'éloigner. Restez où vous êtes, Banni. J'ai quelque chose à vous dire. Savez-vous nager? Un peu. Feriez-vous 10 miles? 10 miles? M'écriai-je en riant. Oh, pas un, non. Pourquoi me demandez-vous cela? Mais nous allons longer la côte à 10 miles de distance pendant toute la journée. Et qu'est-ce que ça veut dire, Raffles? Rien, mais moi, en cas d'accident, je pourrais nager. Vous ne pouvez pas nager entre deux eaux? Je ne répondis même pas à sa question que j'entendis à peine. Une sueur froide me vint à la peau. Mais pourquoi arriverait-il un accident, murmurai-je. Nous ne sommes pas découverts, n'est-ce pas? Oh non! Alors, pourquoi parler comme si nous étions? Cela peut arriver. Il y a de nos vieux ennemis à bord. Un vieil ennemi. Mackenzie. Pas possible. Oui, cet homme à la barbe grise qui est arrivé le dernier. Vous êtes sûr? Sûr, mais je suis même étonné que vous ne l'ayez pas reconnu. Je portais mon mouchoir à ma figure. Maintenant, à la réflexion, je me rappelais que la tournure du personnage ne m'était pas tout à fait inconnue, qu'il paraissait bien alerte pour son âge apparent, sa barbe même ne pouvait me tromper à cette heure où je la voyais dans la lumière de cette horrible révélation. Je regardais de tous côtés sur le pont, mais le vieillard ne s'y trouvait pas. C'est un mauvais signe, dit Raffles. Car il y a 20 minutes, je l'ai vu entrer dans la chambre du capitaine. Que diable a pu l'amener ici? M'écriai-je au désespoir. Oh, est-ce une simple coïncidence? Est-il sur la piste d'une autre personne? Raffles fit un signe de tête. Oh, c'est bien un peu probable, dit cette fois-ci. Alors vous pensez que c'est pour nous? Je le crains depuis quelques semaines. Et pourtant, vous restez là. Puis-je faire autrement? Je ne veux me jeter à la nage qu'au dernier moment. Oh, je commence à regretter de n'avoir pas suivi votre avis, Bonny, de n'avoir pas abandonné le paquebot à Gênes. Je ne doute pas un instant que Mackenzie ait surveillé le navire et la gare jusqu'à la dernière minute. Voilà pourquoi il n'est arrivé qu'au dernier moment. Il prit une cigarette et me tendit son étui, mais je le repoussai avec impatience. Mais je ne comprends pas encore, dis-je. Mais dans quel but vous suivrait-il? Pourquoi viendrait-il jusqu'ici à propos d'un bijou qu'il devait supposer absolument en sécurité? Qu'en pensez-vous? Tout bonnement qu'il suit ma piste depuis quelque temps, sans doute depuis que notre ami Cronchet lui glissa entre les doigts en novembre dernier. À ce sujet, j'ai bien relevé quelques indices et je m'y attendais bien un jour ou l'autre. Mais lui ne peut avoir que des soupçons. Je le défie de prouver quoi que ce soit, comme je le défie de trouver la perle. Affaire de pure théorie, Benny. Je savais aussi bien que si j'étais dans sa peau, ce qui l'a conduit ici et ce qu'il va faire. Il a appris que je m'étais embarqué et il en a cherché la cause. Il a découvert la mission dont était chargé Van Herman et voilà son motif tout trouvé. La possibilité de me faire pincer en flagrant délit d'un nouvel exploit. Il me passera pas, Bunny, croyez-en ma parole. Il peut fouiller le vaisseau, nous fouiller tous quand le vol sera découvert, mais ce sera en vain. Tiens, voilà le capitaine qui fait des signes à notre jeune poseur de venir dans sa cabine. Le feu sera aux poudres dans 5 minutes. Cependant, il n'y eut pas d'explosion, aucune agitation n'eut lieu, on ne fouilla pas les passagers, aucun murmure menaçant ne se fit entendre dans l'air ambiant. Le calme absolu continua de régner à bord, et il me parut certain que Ralph était même quelquefois vexé de voir que ses prédictions ne se réalisaient pas. Cependant, ce silence même paraissait de mauvais augure après un vol aussi important. Il dura pendant des heures au cours desquelles Mackenzie resta invisible. Il n'assista pas au déjeuner, il était dans notre cabine. J'avais laissé mon livre sur le rift de Raffles, et en attendant le chercher après dîner, je touchais la couverture. Elle était encore chaude, comme si quelqu'un s'était couché dessus. Instinctivement, je sautai au ventilateur, et en l'ouvrant, j'entendis celui d'en face qui se ferma avec un bruit sec. Je guettai Raffles au passage. Cela va bien, dit-il, qu'il cherche la perle. L'avez-vous jeté par-dessus bord? Oh, voilà une question à laquelle je ne répondrai pas. Il tourna les talons et je le vis profiter de sa dernière après-midi en compagnie de l'inévitable Miss Werner. Je me rappelais qu'elle paraissait fraîche et délicieuse dans sa simple rose de toile grise, garnie çà et là de rouge et qui s'harmonisait si bien avec son teint. Je la contemplais longuement cet après-midi-là. Ses yeux étaient vraiment superbes, ainsi que ses dents, et jamais je ne l'avais autant admirée, malgré moi. Bien des fois, je passais devant eux afin de pouvoir dire un mot à Raffles et le prévenir qu'il y avait du danger dans l'air, mais je ne pus arriver à appeler son attention. Enfin, j'y renonçai, et je ne le vis plus que dans la cabine du capitaine. Il y avait été mandé le premier, il était rentré en souriant. Quand j'entrai moi-même, il souriait encore. La pièce était spacieuse, telle qu'il convient à un commandant. Mackenzie était assis sur un pouf, sa fausse barbe déposée devant lui sur une table vernie. Un revolver était placé devant le capitaine. Et quand j'entrai, l'officier qui m'avait prévenu ferma la porte et s'appuya le dos contre elle. Van Herman complétait le groupe, ses doigts frisaient sa moustache. Raffles me salua avec ces mots. Oh, voilà une plaisanterie, s'écria-t-il. Vous vous rappelez la perle sur laquelle vous avez fait des vers, Bunny, la perle de l'empereur, dont la valeur était inestimable. Bien, il paraît qu'on l'a confiée à notre jeune ami ici présent pour la porter à Cornerdoom, et le pauvre petit gamin l'a perdu. Bien entendu, comme nous sommes anglais, on suppose que c'est nous qui l'avons. Je sais que vous l'avez, dit Mackenzie avec un geste d'affirmation. Vous reconnaissez cette voix loyale et patriotique, fit Raffles. C'est celle de notre vieil ami écossais Mackenzie de Scotland Yard. Oh, voilà, c'est, cria le capitaine. Fou les fous quoi fou fou il te pas de volonté ou que je suis fou il force. Que voulez-vous, dit Raffles. Vous feriez pas mal de nous interroger franchement d'abord. Vous nous accusez d'avoir pénétré dans la cabine du capitaine Van Herman ce matin à la première heure et d'y avoir volé cette maudite perle. Eh bien, moi, je puis prouver que je suis resté toute la nuit dans ma cabine et je suis convaincu que mon ami peut le prouver comme moi. Certainement que je le puis, m'écriai-je avec indignation. Les mousses du bord peuvent le déclarer. Mackenzie se mit à rire et secoua la tête en regardant son image dans la cage vernie de la table. C'est très fort, dit-il, et vous auriez pu vous en servir s'il n'était pas venu à bord. Mais j'ai examiné les ventilateurs et je crois me rendre compte comment vous avez opéré. Peu importe, capitaine, ce n'est pas l'affaire. Je vais mettre les menottes à ces deux gaillards et ensuite. Mais de quel droit? Hurla Raffles d'une voix forte, tandis que sa figure avait pris une expression de fureur que je ne lui avais jamais vue. Mais fouillez-nous si vous le voulez. Fouillez tout ce que nous possédons, mais vous ne mettrez pas la main sur nous sans un mandat de justice. Oh, je ne m'y risquerai pas, fit Mackenzie, gravement en fouillant dans sa poche de côté, tandis que Ravels faisait le même geste. Tenez-lui les mains, hurla l'Écossais. Et le gros revolver que nous avait suivi dans tant d'expéditions, et qui, à ma connaissance, n'avait jamais fait feu, tomba sur la table. Le capitaine s'en empara. Très bien, dit Raffles avec fureur en s'adressant au second du navire. Vous pouvez me laisser maintenant, ne le serrez plus désormais. Maintenant, Mackenzie, montrez-nous le mandat. Vous ne le déchirerez pas. Quel avantage y trouverais-je? Voyons-le, dit Raffles d'un ton péremptoire. Le détective obéit. Raffles leva les yeux en parcourant le document. Sa bouche devint dure, mais il ne tarda pas à reprendre son expression normale, et il rendit le mandat en souriant et en haussant les épaules. Vous est-il applicable? Demanda Mackenzie. C'est possible, je vous félicite, Mackenzie. Vous avez de la poigne, tout au moins. Deux cambriolages et la rivière de diamants de Melrose, Benny. Il se tourna vers moi avec un triste sourire. Oui, tout cela me sera facile à prouver, dit l'Écossais en mettant le mandat dans sa poche. En voilà un pour vous, dit-il en me regardant, mais il n'est pas aussi long. Pensez, dit le capitaine d'un ton de reproche, que mon navire est devenu un repaire de bandits. Voilà que traite désagréable. Je suis obligé de mettre au fer jusqu'à notre arrivée à Naples. Oh, cela non, s'écria Raffles. Mackenzie, intercédez pour nous. Vous n'allez pas lâcher vos compatriotes devant tout le monde. Capitaine, une évasion est impossible. Laissez passer la nuit sans faire de bruit autour de cette affaire. Voilà tout ce que j'ai dans mes poches. Videz les vôtres, Benny. Si on craint que nous ayons des armes sous nos vêtements, qu'on nous fouille jusqu'à la peau. Tout ce que je demande, c'est que nous puissions sortir d'ici sans avoir les menottes aux mains. Tes armes, dit le capitaine. Vous n'en avez pas, mais où est la belle que vous avez volée? Vous l'aurez, s'écria Ralph. Vous l'aurez de suite, si vous me donnez votre parole qu'il ne vous sera fait aucun affront à bord. J'y veillerai, dit Mackenzie, tant que vous vous tiendrez convenablement. Eh bien, où est-elle? Sur la table, sous votre nez. Mes yeux se portèrent sur même temps que ceux des assistants sur la table. Je n'y aperçus aucune perle, mais seulement le contenu de nos poches, nos montres, nos portefeuilles, nos crayons, nos canifs, nos étuis à cigarettes qui gisaient sur la table polie avec les revolvers dont j'ai parlé. Vous vous moquez de nous, dit Mackenzie, à quoi bon? Pas le bois du monde, dit Raffles en riant. Je vous mets à l'épreuve. Où est le mal? Elle est ici, sans plaisanterie, sur la table, je vous en donne ma parole. Mackenzie ouvrit des étuis à cigarettes et secoua chaque cigarette séparément. Raffles le pria de lui en offrir une et, quand sa prière fut exaucée, il ajouta que la perle était sur la table depuis bien plus longtemps que les cigarettes. Mackenzie aussitôt saisit le revolver et ouvrit le barillet. Pas là, pas là, cria Raff, mais vous brûlez. Essayez donc les cartouches. Mackenzie les vida dans le creux de sa main et secoua chacune d'elles contre son oreille sans résultat. Bon, lui donnez-moi donc. Et en un instant, Raffles trouva celle qui était truquée, enleva la balle entre ses dents et, avec un geste majestueux, posa la perle de l'empereur au milieu de la table. Après cela, vous me montrerez peut-être autant de considération qu'il sera en votre pouvoir. Capitaine, vous voyez que je suis peut-être un bandit, mais je suis prêt à passer la nuit au fer si vous le jugez utile pour la sécurité du navire. Tout ce que je vous demande, c'est de m'accorder d'abord une faveur. Cela dépend de la faveur que vous demanderez. Capitaine, j'ai accompli sur votre navire quelque chose de plus grave que vous ne le pensiez. Je me suis fiancé et je voudrais dire adieu à la jeune fille. Nous étions tous dans le même étonnement, mais le seul qui le manifesta fut Van Herman, qui commença par lâcher en allemand un formidable juron. Oh, ce fut même la seule parole que je lui eusse entendu prononcer. Il ne tarda pas du reste à le faire suivre d'une protestation vigoureuse contre l'adieu demandé, mais la volonté de Raffles fut d'obtenir gain de cause. Il devait passer 5 minutes avec la jeune fille, tandis que Mackenzie et le capitaine se tiendraient assez loin pour ne pas entendre avec leur revolver derrière le dos. Comme nous sortions de la cabine tous ensemble, il s'arrêta et me saisit la main. Enfin, je vous ai fait pincer, Benny, enfin et malgré tout. Oh, si vous saviez comme je suis désolé. Mais vous n'attraperez pas grand-chose. Je vois pas pourquoi même vous seriez condamné. Me pardonnerez-vous? Nous serons des années sans nous revoir, peut-être ne nous reverrons-nous jamais. Vous avez toujours été un brave ami dans les mauvais jours, et peut-être plus tard, seriez-vous heureux de vous rappeler que vous l'avez été jusqu'à la fin. Il y avait dans ses yeux une expression que je saisis. Mes dents étaient serrées et mes nerfs à bout quand j'étreignis sa main forte et habile pour la dernière fois de ma vie. Cette dernière scène est restée présente à ma mémoire et elle y sera gravée jusqu'à ma mort. Je revois chaque détail, chaque ombre du pont ensoleillé du navire. Nous nous trouvions par le travers des îles éparses çà et là sur la route de Gênes à Naples. On voyait distinctement l'île d'Elbe qui se trouvait à tribord et formait une tache violette éclairée par le soleil couchant. La cabine du capitaine s'ouvrait aussi à tribord. Tout ce côté du pont, encore dans la pleine lumière sur laquelle se détachaient les ombres adoucies, était désert. Seul le groupe dont je faisais partie s'y trouvait, et un peu plus loin, on apercevait celui formé par la silhouette pâle et mince de la jeune fille qui se tenait à côté de Raffles. Fiancée, oh, je ne pouvais le croire! Et ne le puis encore aujourd'hui. Pourtant, ils étaient là, côte à côte. Nous ne pouvions entendre un mot de ce qu'ils disaient. Ils étaient là, dans la ligne du soleil couchant, qui se prolongeant dans la mer, formait comme une route étincelante de l'île d'Elbe au cuivre du navire. Leurs ombres venaient mourir à nos pieds. Soudain, un instant, et ce fut fait. Je le sais encore, s'il nous faut admirer ou regretter. Il la saisit, l'embrassa devant nous tous, et la repoussa avec une telle violence qu'elle faillit tomber. Cela fit prévoir ce qui allait suivre. Le second du navire se précipita et je l'arrêtai en sautant vivement sur lui. Ralph ne se tenait plus qu'au bastingage. Tenez-le, Benny, tenez-le ferme! Sans même savoir ce que je faisais, et n'ayant en vue que ses dernières paroles, de toutes mes forces j'obéis à sa demande. Et je le vis lever les bras, baisser la tête, et son corps d'athlète couper aussi nettement l'éclat du soleil couchant que s'il avait plongé du tremplin d'un bateau. Je ne vous dirai pas ce qui se passa sur le pont, car je n'y étais plus. Je ne vous parlerai pas davantage de mon châtiment final, de mon long emprisonnement, de ma vie brisée. Cela ne saurait vous intéresser ni vous profiter assez, car je n'avais que ce que j'aurais mérité. Mais je vais vous dire encore une chose. Oh, vous la croirez si vous voulez, j'aurai fini. On me mit au fer dans une cabine de seconde classe placée à tribord, et l'on m'y enferma à clef comme si j'étais un autre Raffles. Entre-temps, on avait mis une chaloupe à la mer où l'on avait fouillé de tous côtés sans rien découvrir, ainsi que le racontaient sans doute les journaux de l'époque. Mais, à moins que la vue du soleil couchant qui enflammait les visages m'eût aveuglé, mes yeux furent victimes de la plus étrange hallucination. La chaloupe était remontée, l'hélice s'était remise en marche, et moi, pauvre prisonnier, je regardais à travers le hublot la mer brillante qui s'était sans doute refermée sur la tête de mon camarade. Tout à coup, le soleil se cacha derrière l'île d'Elbe. La traînée lumineuse s'éteignit aussitôt. Au milieu de la mer, à plusieurs milles à l'arrière du navire, j'aperçus comme une petite tache noire qui s'élevait et s'abaissait dans la brume. La corne avait sonné le dîner, et ce fut peut-être un bonheur que nul autre que moi n'eût regardé à l'horizon. Je perdis bientôt de vue ce petit point qui continuait toujours ses mouvements que je pus suivre. Une dernière fois, je le vis s'élever comme un atome dans la brume du soir, se dirigeant vers une île qu'empourpraient les rayons du soleil couchant. Et peu à peu, la nuit vint, sans que j'aie pu me rendre compte de ce qu'était la pointe noire qui ressemblait à une épave.